Brestoise, Brestois, le changement est enfin arrivé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un changement qui est largement discuté, qui est largement discutable, puisque Éric Roy est le nouvel entraîneur du Stade Brestois 29 jusqu'à la fin de saison. Un choix qui forcément laisse perplexe, notamment au regard des nombreuses déclarations de la direction ces derniers mois, qui laisse perplexe même sur le délai pris pour le recruter, quand même 3 mois pour un entraîneur libre depuis 10 ans. Mais tout de même, Éric Roy est le nouvel entraîneur de Brest et à ce titre, il doit être soutenu, pleinement soutenu dans ce qui va être tout simplement une mission commando pour maintenir le Stade Brestois 29. Comme à l'accoutumée, on se retrouve avec un épisode de présentation habituel, mais épisode qui est finalement un peu particulier puisque Éric Roy n'a plus entraîné depuis 2012. Ça fait quand même 10 ans et force est de reconnaître que sa seule expérience à l'OGC Nice, son club de cœur, son club de formation, ne s'est pas forcément très bien terminée. Et en toute franchise, il nous a été impossible de trouver un témoignage pleinement positif, pleinement dithyrambique à propos d'Éric Roy du côté de Nice. Heureusement, du côté de Brest-en-Air, on a nos petites solutions habituelles. On a fait appel à l'excellent Sky, qui nous a apporté un éclairage assez nuancé, tant sur l'homme que sur le passage sportif. Toutefois, il faut le préciser une dernière fois, tous ces éléments sont à prendre avec des pincettes, puisque Éric Roy n'a rien fait depuis 10 ans, en tout cas rien en tant qu'entraîneur. Donc sa vision du football, ses méthodes de travail ont pu largement évoluer, et on espère qu'elles ont évolué dans le bon sens. Dans tous les cas, on vous laisse écouter cet échange avec Sky, et on se retrouve d'ici la fin de semaine avec un épisode avec normalement Quentin et Fanch pour évoquer ces 3 mois. Les 3 mois qui ont servi à trouver un nouvel entraîneur avec beaucoup de déclarations, beaucoup de pistes, et finalement, Éric Roy.
Benelli pour le corner, bien frappé au deuxième poteau, la reprise de Pierre Lespelou!
Vous parlez avec Lorenzi, qui est là, directeur sportif, il est là, vous parlez avec lui. Moi, je parle pas de Fèvre.
Une touche, hein, ça part où ça part. Hein. La première, j'ai blessé un spectateur, et la deuxième, elle est rentrée.
C'est tout! C'est tout! Wow.
Quelle application, le drapeau,
Guendouzi, Guendouzi
la frappe, l'arrêt
évident,
et le combat.
C'est bon d'aimer le stade brestois.
Supporter brestois, finalement, la personne que vous avez presque le plus entendu après nous trois sur Brest-en-Air ces 3 dernières saisons, eh bien c'est un supporter niçois, c'est Sky qui nous rejoint, je crois que c'est pour la 6e fois. Sky, merci, bonne année, comment ça va?
Bonne année à tous les supporters brestois, malgré la nouvelle du jour. Je peux pas dire que ça aille très bien en tant que supporter de l'OGC Nice aujourd'hui, mais très content d'être avec vous et très content d'être accueilli encore une fois dans votre émission.
La mauvaise nouvelle du jour que tu évoques, c'est la signature d'Éric Roy. Côté brestois, on va pas dire mauvaise, puisqu'on n'a pas encore le bilan, mais pour introduire ce podcast, je vais peut-être, si tu me le permets, citer un échange qu'on a eu quelques heures avant les signatures d'Éric Roy, avant que le nom ne sorte. Je t'avais envoyé ce message. Tiens, salut Sky, par curiosité, si on faisait un bilan, quel serait le pire coach passé par l'OGC Nice depuis 2010, selon toi? Question à laquelle tu as répondu.
Éric Roy. Je suis désolé.
Voilà. Voilà, donc quand on a vu ça, forcément, on était un peu intrigués, on va dire. Je pense quand même, et tu vas nous le dire, Éric Roy à l'OGC Nice, il faut prendre son parcours dans son ensemble, puisque si je ne me trompe pas, il n'a pas été qu'entraîneur à Nice.
Non, il a été joueur tout d'abord, il est né à Nice, hein, c'est un niçois, Éric Roy, il est formé à l'OGC Nice et il termine sa carrière de joueur lorsque le club remonte en 2002. Il revient, bon, il y trouve son intérêt, mais il revient aider le club qui à l'époque est menacé par la DNCG. À pas de sous, on fait une espèce d'équipe de mercenaires, bah forcément dans le mauvais sens du terme, mais à coup de prêts et de vieux joueurs sur le retour ou sur le déclin dont il fait partie. Donc bon, en tant que joueur, globalement, sans avoir été un illustre ancien, il a fait son taf, il est formé au club, il termine chez nous. Voilà, Éric Roy le joueur, on en a un avis globalement plutôt positif. Voilà, un avis un peu plus positif qui s'est volatilisé rapidement avec son après-carrière. Il intègre d'abord l'organigramme du gym comme directeur du marketing, si je me souviens bien. Bon, c'est une autre époque, hein, je te dis ça doit faire 15 ans, voire même un peu plus. Il laisse pas franchement de très bons souvenirs dans ce domaine-là. Bon, admettons, après tout, c'est un footballeur, il n'avait pas forcément fait d'études de marketing. on a fait avec les moyens du bord. Et après, il devient un peu directeur sportif, manager. C'est pas giga concluant, hein. C'est les, comment dire, c'est la génération de l'OGC Nice qui joue le maintien tous les ans. Et quand je dis qu'il joue le maintien, c'est souvent la 17e place même, hein, carrément. Et après, et c'est ce qui vous intéresse, il arrive un peu par hasard sur le banc parce que je crois qu'on vire notre entraîneur qui était peut-être plus mauvais que lui juste avant, du coup en 2010, Didier Olé-Nicole. Il prend le poste un peu en intérim, il arrive à sauver le club. Alors là, c'est peut-être le côté positif que je vais vous dire dans l'émission. Quand c'était une mission de sauvetage, il avait plutôt réussi sa mission. Et après, il rempile la saison suivante en choisissant ses joueurs et en construisant son équipe. C'est une catastrophe. Le club fait un début de saison de relégable. Et en fait, le club, ne pouvant pas le virer pour des raisons que je détaillerai après, choisit en fait d'inverser sa position. Il redevient manager et adjoint. Et c'est son adjoint qui prend la place de numéro 1, René Marsiglia. Et qui du coup développe un tout autre football et ne nous qualifie pas pour l'Europe non plus, hein, parce qu'on ne pouvait pas avoir d'autres ambitions que le maintien, mais propose déjà un peu un autre football. Donc voilà, il est passé par beaucoup de postes, ça n'a pas toujours été brillant, ça a été de façon très courte, on va dire d'une mission commando, ça s'est passé, en tout cas on s'est maintenu. Mais après voilà, rapidement on est tombé aussi dans l'extra sportif et la limite en fait de sa compétence à ce poste-là, ce qui je pense n'est pas étranger au fait qu'il n'ait pas retrouvé de banc depuis 10 ans.
Avant de parler de l'extra sportif, on va peut-être essayer de décortiquer ce qui reste du sportif, même si comme tu l'as dit, pas de poste depuis 10 ans, on n'en sait pas où il en est. La première saison mission sauvetage que tu évoques, Nice finit 17e. Au moment où il est un peu renversé avec Marsiglia, Nice est 20e et finalement Nice finit 13e cette saison-là. Est-ce que, au-delà des résultats, vous avez senti un changement, que ce soit de philosophie, d'engagement des joueurs, de dialogue, ou c'est finalement ce qui peut arriver assez rapidement, c'est juste manque de confiance, des résultats qui ne suivent pas et voilà, un nouvel élan, ça suffit à relancer.
Alors, je vais être vraiment... Cela dit, je ne pense pas que les supporters niçois qui pourraient écouter ce podcast me trouveraient de mauvaise foi, pour une fois. Je pense que quand il arrive, alors oui, il apporte quand même le côté choc psychologique après Didier Olé-Nicole, mais je pense malgré tout qu'il est un peu plus compétent. Didier Olé-Nicole, quand on le débauche, je ne sais pas si c'est pas de Clermont ou d'un club comme ça à l'époque en Ligue 2, c'est un entraîneur en fait qui a eu pas mal de réussite dans des divisions inférieures. Et quand je dis inférieures, c'est notamment National et à l'époque CFA. Donc en fait, il arrive pour son premier poste en Ligue 1. C'est même pas un entraîneur confirmé de Ligue 2. C'est vaguement un jeune entraîneur. On fait un gros pari. Et en fait, très rapidement dans la saison, on s'aperçoit que c'est n'importe quoi. Enfin, il a aucune emprise sur le jeu. Les joueurs comprennent pas du tout ce qu'il a envie de faire. Et les résultats, sont encore plus mauvais que les standards de l'OGC Nice de l'époque, qui étaient déjà pas très élevés. Eric Roy arrive là, auréolé d'une plutôt bonne opinion, comme je te le disais, en tant que joueur. Puis en plus, c'est un Niçois, donc voilà, vraiment un mec du cru, donc on se dit pourquoi pas. Et il s'embarque dans une espèce, un peu comme je te disais, de mission commando. Je crois que sur les derniers matchs de la saison, il fait une bonne série. Et en fait, l'OGC Nice, sur les dernières semaines de compétition, a le parcours pour être 8e. Donc on se dit, ah ben en fait, peut-être qu'Éric Roy, il a un petit potentiel. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il rempile la saison d'après. Il a réussi sa mission sauvetage. Il termine la saison en boulet de canon. Pourquoi pas avoir la saison suivante? Et comme tu le dis, la saison suivante, on est dernier. Je crois que c'est dès le mois de novembre. C'est super rapide hein, que René Marsiglia prend la tête. Et en fait, René Marsiglia, sans le survendre non plus, c'est un mec qui aime le foot, qui aime le beau football. Et en fait, d'une équipe de l'OGC Nice qui était plutôt besogneuse, courageuse, qu'on aimait aussi pour ça, il essaye d'en faire une équipe de foot. Il essaye, après au mercato d'hiver, d'attirer des joueurs un peu plus de football aussi. Et il arrive à en faire quelque chose qui, tu termines 13e, donc c'est pas non plus... le Lens ou le Lorient d'aujourd'hui, hein, c'est pas l'équipe surprise, mais en faire quelque chose qu'on n'avait pas vu ces dernières années, qu'on n'avait jamais vu avec Éric Roy, qui, sans être un Pascal Duprat bis dans le jeu, n'est pas spécialement un amoureux du beau football. Je pense que ça va beaucoup se passer. Enfin, il n'y a pas toujours de corrélation entre le poste des entraîneurs quand ils étaient joueurs et leur philosophie de jeu, mais enfin, très clairement, il a proposé une équipe qui ressemblait à un milieu défensif qu'il était en tant que joueur. Hein. Donc voilà, ce qui peut pour une mission de 6 mois chez vous être une bonne solution, hein. Comme je vous l'ai dit, sur la mission commando à Nice, il a réussi son coup. C'est peut-être bien des dirigeants brestois de ne pas s'être engagés sur un contrat d'un an et demi. Voilà. Mais non, non, très clairement, nous on a senti une différence de philosophie. Donc oui, c'était un peu plus cohérent que son prédécesseur, mais très clairement, il n'avait pas du tout d'ambition dans le jeu comme son successeur. Donc je pense que ce que vous devez en attendre, après en 10 ans, il a pu changer, hein, mais on n'a pas d'autres références en matière de coaching à opposer à son passage niçois depuis. Je pense que vous allez avoir quelqu'un qui va au maximum essayer d'être rigoureux et pragmatique. Est-ce que s'il est toujours capable de le faire avec un football qui a changé depuis 10 ans, est-ce que vous avez l'effectif pour le faire? Je t'avoue que ma connaissance du stade brestois s'arrête là, mais voilà, faut pas s'attendre à une révolution dans le jeu. Et je pense que c'est un constat que, bah, pour en avoir un peu discuté en off avec toi, puis je pense que c'est le constat logique. En fait, j'ai du mal à comprendre que pour faire venir Éric Roy, t'avais pas besoin d'attendre que le championnat reprenne. Et je suis même pas sûr en fait que par rapport à votre, je crois que c'était un triumvirat d'adjoints que vous avez mis en place, je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment une grosse grosse plus-value, on va dire technique au niveau de la compétence. Donc c'est là-dessus que je suis un peu circonspect. Je ne l'aime pas humainement déjà, Éric Roy, mais techniquement, même si j'essaye de pas trop le fracasser pour pas vous déprimer et pour lui laisser le bénéfice du doute. Voilà, chez nous, il s'est pas montré meilleur que René Marcilla, qui était son adjoint et avant le directeur du centre de formation. Donc chez vous, je vois pas pourquoi il serait meilleur que vos adjoints et votre directeur du centre de formation en réalité. Donc voilà, c'est là que je suis un peu circonspect sur la plus-value, mais à la fois, il a déjà réussi une mission maintien, pourquoi pas une deuxième.
Avant de passer sur l'aspect humain, parce que ça va quand même être quelque chose d'important, la question finalement qui se pose, c'est de savoir est-ce que Éric Roy, c'est quelqu'un qui peut faire sortir les joueurs de son confort, de leur confort. C'est un peu ce qui est reproché au trio actuel, c'est que voilà, ils s'entendent très bien avec les joueurs, mais c'est pas forcément eux qui ont le caractère pour leur mettre un peu le nez dans la merde, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que Éric Roy, lui, il a ce caractère, il peut leur rentrer dedans et les mettre plus bactères s'il faut pour les faire réagir?
C'est pas un méchant, c'est pas trop un gueulard, bon, un peu, mais pas plus, pas moins, je te dirais, que la moyenne des entraîneurs. Il va présenter l'avantage, peut-être de pas les connaître et de pas être leur copain comme du coup vos entraîneurs actuels, enfin désormais ex-entraîneurs intérimaires. Mais en fait, à Nice, il avait aussi réussi parce qu'il avait quand même cette proximité avec les joueurs. À l'époque, il venait d'arrêter sa carrière, ouais, il y a moins de 10 ans avant de prendre le poste. Donc, il avait encore un peu, je pense, aussi cette proximité avec la génération qu'il a entraînée. Là, tu rajoutes 11 ans à sa dernière expérience de coach. Donc, il a plus forcément cette proximité avec les joueurs. C'est pas dans un club qu'il connaît non plus. Donc en fait, ça va vraiment reposer juste sur son charisme, et là j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, et sur, on va dire, sa capacité humaine à fédérer. Bon, c'est quelqu'un qui est quand même plutôt bon communicant, hein, je pense que vous le connaissez à la télé et à la radio comme consultant déjà. C'est quelqu'un qui va pas forcément avoir peur de prendre la responsabilité sur lui, il adore ça, surtout quand ça tourne en sa faveur. Donc je pense qu'il pourra quand même au moins servir peut-être de bouclier médiatique, et je soupçonne qu'il soit en capacité, parce qu'il n'a pas grand-chose à perdre au final avec ce contrat de 6 mois et il joue pas une carrière d'entraîneur non plus. C'est pas impossible qu'il puisse faire un peu office de gilet pare-balles et protéger le vestiaire. Après, est-ce qu'il va être capable d'imposer une autorité et une main de fer sur un vestiaire qui éventuellement en aurait besoin? Il n'avait pas fait ça il y a 10 ans dans un club où il était chez lui alors qu'il était jeune retraité. Là, depuis 10 ans, il a fait surtout de la télé. J'ai un peu de doute là-dessus. Après, il va pas se liquéfier, et je pense pas que ce soit un entraîneur qui soit c'est pas un technicien, c'est pas un éducateur, donc l'avantage c'est qu'en fait il va essayer de jouer sur le ressort sur les ressorts humains et sur le discours. Je peux pas vous dire si ça va passer, mais en tout cas il va tâcher, je pense, d'apporter une certaine motivation, voilà. Et je reboucle sur ce que je disais tout à l'heure, à Nice, je suis obligé de lui reconnaître qu'il avait su le faire dans une situation similaire. Donc là-dessus, je veux bien lui laisser le bénéfice du doute.
En revanche, là où tu ne lui laisses pas le bénéfice du doute, c'est sur le plan humain. On entend beaucoup de Niçois lui reprocher beaucoup de choses. Est-ce que tu peux faire peut-être une synthèse de ce à quoi il faut s'attendre ? Parce que aujourd'hui, Éric Roy a signé un contrat de 6 mois. Mais si le Stade Brestois venait à se maintenir, rien ne garantit qu'Éric Roy ne remplirait pas comme il l'a fait à Nice. Donc il faut savoir à qui on a affaire.
Alors, je suis toujours gêné, je préfère le dire avant de balancer un gros taquet, je suis toujours gêné de juger quelqu'un sur... Bon, il n'y a pas que des on-dit dans ce que je vais te dire, je m'appuie quand même sur des éléments factuels, je ne suis pas là pour faire des ragots, mais sur une impression, parce que ce n'est pas quelqu'un que je connais personnellement ou que je fréquente. Bon, j'ai déjà fait un plateau avec lui, il m'avait passablement énervé, mais bon, ça c'est pour l'anecdote, mais... Voilà, je vais quand même mettre certaines guillemets, mais pour te parler de la réputation qu'il a à Nice, visiblement, comme tu l'as dit, on est quand même relativement unanime à ce sujet. Éric Roy, c'est quelqu'un qui est quand même extrêmement opportuniste. Donc voilà, il a occupé plein de postes au club. À l'époque, il avait quand même négocié qu'il soit embauché en fait embauché en CDI pour être plus difficilement virable, quel que soit le poste qu'il occupait. Ça s'est terminé au prud'homme avec lui. Il a gagné d'ailleurs, donc du coup il a gagné 700 000 euros sur le dos du club. Alors après, voilà, s'il y a eu décision des prud'hommes, la justice a dû effectivement caractériser que le licenciement était abusif, mais bon, voilà, c'est le type de démarche qu'il a fait après un licenciement pour des mauvais résultats. Il y a des soupçons, ou en tout cas Jean-Pierre Rivère qui l'a fréquenté, parce que du coup Éric Roy est au club quand Jean-Pierre Rivère arrive à l'OGC Nice et rachète le club en 2011. Jean-Pierre Rivère le soupçonne d'avoir un peu dilapidé sa mise initiale qu'il avait mise pour racheter le club et pour le premier mercato, avec des transferts qui sportivement n'ont strictement rien apporté, et sur lequel on se demande si il n'a pas un peu croqué ou fait croquer les copains. Jean-Pierre Rivère le déteste, hein, très clairement. Des fois en interview interposée ou par échange en radio, la tension, elle était vraiment palpable. Et on parle de Jean-Pierre Rivère qui est quand même un maître de la communication et pour arrondir les angles, mais ça ne passe pas du tout avec Éric Roy. Et il a une fâcheuse tendance en fait à s'attribuer, à s'attirer des réussites collectives, voilà. Je ne sais plus ce qu'il disait l'autre jour, le dernier match que je l'ai entendu commenter, mais il disait « Oui, l'OGC Nice, avant, c'était quand même un club qui faisait jouer les jeunes, je me souviens quand j'y étais, tout ça. » Bon, le mec a jamais lancé un jeune du centre de formation. Claude Puel a fait tout le taf après lui la saison d'après. Les rares jeunes qui ont été formés à Nice, ils ont été formés par René Marsilia, qui était son adjoint et qui était le directeur du centre de formation avant. Donc voilà, c'est un peu ce genre de personnage énervant qui va te dire que lui, tout ce qu'il a fait, c'est bien. Ah ouais, bah, y a eu des trucs qui n'ont pas marché, mais en fait, c'est quand même pas tout à fait ma faute. Donc bon, voilà, très clairement, si ça se passe pas bien avec Brest l'été prochain, quand il donnera une interview, il va pas dire que c'est de sa faute. Enfin, j'en serais très surpris, c'est-à-dire qu'il a changé, ce qui est possible, encore une fois, en 10 ans. Mais à la fois, c'est aussi le personnage qui aime bien la lumière et qui aime bien, comme je te le disais, du coup, je pense, faire office. Alors, il va pas faire office de paratonnerre en se sacrifiant pour ses joueurs, mais il va se mettre en avant et ça va peut-être, du coup, libérer un peu de pression aussi de votre vestiaire. Bon, voilà. Après, c'est différent avec l'OGC Nice et notamment, comme je te disais, au prud'homme, voilà, ça c'est des affaires entre salariés et employeurs. Bien sûr que moi j'aime mon club, mais c'est tout à fait possible que le licenciement était abusif et que voilà, ce qu'on lui reprochait n'était pas exactement fondé. Mais voilà, c'est le genre de gars qui va du coup te forcer un peu à prendre un joueur que t'as pas forcément envie de prendre quand il était directeur sportif. Les joueurs qu'il a ramenés à Nice, je pense qu'il y en a quasiment pas un qui a été un succès. Le seul succès, et encore c'est relatif, que j'ai en tête, c'est Fabian Munzon qui ramène d'Argentine. il part quand même 2 semaines en Argentine pour superviser le joueur. Donc bon, les vacances aux frais du club devaient être très sympas, mais voilà. Bien sûr, il le ramène, c'est lui qui le découvre, soi-disant, enfin c'est lui qui va le scouter. Mais même dans ce genre de situation, t'as toujours une petite histoire de « ouais, bah quand même, en fait, il a disparu 2 semaines en Argentine, le gars ». Enfin, voilà. Donc c'est un peu ce genre de personnage, on va dire, folklorique, mais pas foncièrement mauvais et ni truand non plus, quoi. C'est un peu... Je ferais bien un cliché en disant que c'est un joueur des années 90-2000, tu vois, qui s'est un peu reconverti dans le milieu du foot et qui essaye d'en vivre un peu comme il peut au fur et à mesure qu'on s'appelle à ses compétences et ses talents. Parce que tu vois, par exemple, il surfe d'un média à l'autre sans jamais être totalement convaincant ou particulièrement compétent. Là, il y a une opportunité sur le banc. Bah, il a saisi alors qu'il n'a jamais cherché vraiment à réentraîner depuis 10 ans. Il a fait un petit tour à Watford, un petit tour à Lens comme directeur sportif, puis il est revenu dans les médias. Enfin, voilà. Donc c'est un peu un caméléon qui, je pense pas, ne plantera pas la merde ni dans le vestiaire ni au sein du club, mais qui va essayer de tirer son épingle du jeu d'une façon ou d'une autre. Et si jamais il n'y arrive pas, c'est pas très grave. Je pense qu'il retrouvera un poste de commentateur la saison prochaine de toute façon. Donc pour lui... L'enjeu, c'est pas la survie du Stade Brestois, c'est d'essayer de faire en sorte que lui en sorte avec la meilleure image possible. Mais la bonne nouvelle, c'est que s'il sauve le Stade Brestois, ça sera aussi dans son intérêt.
J'ai une toute dernière question qui est une remontée par certains supporters. Est-ce que, au regard de tout ce qu'on sait d'Éric Roy, on peut imaginer qu'il ait finalement accepté de faire un peu le prête-nom et que finalement ce soit toujours le trio qui gère les entraînements au quotidien, que ce soit toujours eux qui prennent les décisions et qu'ils soient juste là pour éviter les amendes, ou c'est pas dans son caractère ?
Bah, comme je te dis, à Nice, il y avait eu un peu cette installation, ce changement, cette inversion des rôles, et quand il vient en tant qu'entraîneur entraîneur principal, ouais, il a des adjoints malgré tout assez forts qui sont pas, on va dire, au même niveau et en triumvirat, mais je suis même pas sûr qu'il ait ses diplômes quand il est entraîneur à l'OGC Nice. Je me demande si justement René Marsiglia est pas le prête-nom. J'ai un petit doute là-dessus, mais non, ça lui posera aucun problème. Et comme je te disais, je pense qu'Éric Roy, je peux éventuellement lui reconnaître des qualités. Comme je te disais, il a réussi une mission maintien, pourquoi pas une deuxième, et peut-être qu'il va un peu enlever de la pression médiatique justement à votre triumvirat. Donc là-dessus, je vois bien l'organisation qui pourrait être mise en place du côté du Stade Brestois, mais très clairement, et je pense c'est même pas un tacle, hein, c'est la preuve, il a pas entraîné depuis 10 ans, même dans des plus petites divisions. Je pense qu'il a pas les compétences véritablement d'un entraîneur de Ligue 1. Il connaît le foot, il a une carrière très très honorable, il est passé au plus haut niveau français entre Lyon et Marseille, hein, mais je pense que pour le quotidien, pour l'animation des séances, pour la progression des joueurs, certains choix tactiques, il va beaucoup s'appuyer sur ses adjoints. Donc moi, ça m'étonne pas, en fait, ça m'étonnerait même pas du tout que ce soit le prête-nom, maintenant s'il a ses diplômes, éviter les amendes, soit lui qui aille en conférence de presse, qui prenne un peu l'image médiatique, qui casse un peu le copinage, mais l'intimité, la proximité qu'ont vos mecs du cru avec des joueurs qu'ils connaissent très bien, mais il va largement s'appliquer sur les compétences techniques des mecs qui étaient en place depuis le mois d'octobre. C'est pas lui, je pense, en tout cas j'en serais très surpris, c'est pas lui qui va vous apporter, vous insuffler une nouvelle façon de jouer. Il pourra proposer et tester des trucs, mais faut pas attendre d'Éric Roy qu'il trouve la solution pour que vous jouiez mieux, en fait. Peut-être qu'il y participera collégialement, ça serait déjà bien, mais il va pas apporter, je pense, masse de compétences tactiques et techniques.
L'essentiel pour nous, Brestois, c'est qu'il nous apporte finalement un maintien. On fait le bilan dans à peu près 6 mois. Sky, merci beaucoup, encore une fois, pour tes éclairages, toujours bienvenus.
Mais de rien, ça m'a fait un peu travailler la mémoire quand même, mais c'était avec plaisir.